RCF.
Cette semaine dans Halte spirituelle, je vous propose une réflexion sur le thème de la sainteté. Depuis 2000 ans de christianisme, des hommes et des femmes ont choisi d'incarner au plus près l'évangile qu'ils avaient reçu. Ces hommes et femmes de Dieu, on les trouve dans toutes les familles du christianisme, de Thérèse de Lisieux à Saint-Silouane, en passant par Martin Luther King. Mais qu'est-ce qu'un saint ? Ce chemin absolu est-il réservé à une élite ? Et qu'entend-on par communion des saints ? Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois cette semaine Bertrand Vergely. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe chrétien,
oui.
Orthodoxe. Votre dernier livre, Deviens qui tu es, est paru chez Albin Michel. Il est consacré à la sagesse des Grecs. Vous êtes philosophe, alors avec vous nous allons parler de la sainteté, mais nous allons parler aussi de la sagesse. Et justement, pour ouvrir ces entretiens, j'aimerais que vous nous disiez ce qu'est un homme sage.
Un homme sage, c'est un homme qui accepte le monde tel qu'il est et qui sort de la révolte, du désir de modifier le monde selon ses intentions personnelles. Le sage, c'est le stoïcien qui consent au monde. On est sage quand on prend la vie telle qu'elle est. Et quand on accepte l'ordre du monde, pour les stoïciens, voulu par les dieux.
Donc c'est vraiment accueillir le réel tel qu'il est.
Voilà. Et renoncer à sa révolte. Si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. Épictète dit dans son manuel, accepte le monde tel qu'il arrive et non pas tel que tu voudrais qu'il arrive. Prends les choses et accepte-les de manière à ce qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et je crois qu'il y a là énormément de sagesse, c'est-à-dire que le sage stoïcien, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler les vains combats.
C'est-à-dire ?
Bien, beaucoup de nos contemporains sont révoltés et pensent que la révolte, la colère, c'est une bonne chose, ça fait avancer les choses. En fait, on ajoute de la colère à la colère, du désordre au désordre. Et on se lance parfois dans des combats totalement inutiles. Je crois que la grande sagesse veut qu'à un moment, on fasse avec ce qui est. Et là où on est, on découvre la part de divin qui nous permet d'aller dans notre divin intérieur. Et c'est ainsi que les sages trouvaient une forme de bonheur, de béatitude, en apprenant à vivre avec ce qui est, et donc à vivre de ce qu'ils appelaient l'autarcie, c'est-à-dire je me contente de ce qui est, et il y a de l'être partout. Donc finalement, derrière quelque chose qui pourrait sembler fataliste, il y a en fait un optimisme.
Mais alors, avec cette optique-là, on change le monde quand même, on se bagarre pour le modifier, pour améliorer.
On rentre dans le monde. Et cela en tant que tel est une modification du monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut changer le monde et cela perturbe le monde. Tandis qu'à un moment, accepter le monde tel qu'il est permet à un moment de le mettre en ordre. Et n'oublions pas que les stoïciens disaient « comme nous sommes stoïciens, nous sommes dans la cité parce que la vie nous a mis dans la cité, donc nous faisons des lois, donc nous faisons de la politique. » Et n'oublions pas que leur vision des choses a été à la base de la création du droit naturel et d'une sorte de reconnaissance universelle.
Donc il n'y a pas un retrait du monde ?
Pas du tout.
Il y a une participation ?
Il n'y a pas un rejet. Il y a un rejet de la colère, mais pas un rejet du monde. On ne peut pas vivre à l'extérieur du monde. En revanche, il y a une critique radicale de la colère. La colère est mauvaise conseillère et ne soyons pas des tyrans. Et ne cherchons pas à tyranniser le monde davantage pour le transformer.
« Bertrand Vergely, comment vous expliquez qu'aujourd'hui on ait du mal à accueillir la réalité avec toutes ses facettes, le plaisir mais aussi la souffrance, les moments difficiles, la mort, ce qui fait l'entièreté de la vie?
Nous sommes devenus un monde individualiste qui profite de quelque chose d'extraordinaire, la démocratie, le droit, les bien-être. Mais nous n'avons pas d'éducation morale qui va avec. Et vivant notre individualisme au premier degré, nous souffrons énormément dès que quelque chose s'oppose à nos désirs, à notre bien-être, à notre volonté. Donc je crois que, si vous voulez, ce qui manque à notre monde, qui repose sur des principes éminemment agréables, le bien-être, les droits, la possibilité d'exprimer son individualité, notre monde a oublié la morale. Il n'y a pas de république sans morale. Où est la morale? Qui a reçu des cours de morale? Avons-nous des expériences spirituelles avec des maîtres qui nous apprennent à maîtriser, tempérer nos désirs? Il n'y en a pas. Donc, nous sommes dans un monde qui connaît l'individualisme. Vous savez, il se passe, lors de la Révolution française, on a réfléchi sur le fait de savoir si on allait appeler les droits de l'homme les droits et devoirs de l'homme, ou bien les droits de l'homme. Et on a supprimé le mot « devoir ». Robespierre s'est demandé si on n'allait pas inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme le culte de l'être suprême. Nous avons supprimé l'être suprême. Donc, nous n'avons plus de transcendance, plus de morale. Une vision totalement libertaire et libérale a triomphé. Et nous sommes maintenant confrontés au revers de la médaille, c'est que notre jeu sans frontières, si je pouvais faire un jeu de mots, un jeu sans frontières, souffre à la moindre frustration. Tonia Natrella avait écrit un livre qui s'appelle « Halte à la société dépressive » et il dit « La société dépressive, c'est une société hédoniste, individualiste, qui ne supporte pas d'être frustrée. »
Alors, dans ce contexte en plus néolibéral, ça n'aide pas. Comment vous voyez-vous le rôle du capitalisme dans tout ça et du néolibéralisme qui s'est...
Alors, je distinguerai le capitalisme du côté libéral et le côté libéral-libertaire. Le capitalisme, c'est l'économie de marché et je crois qu'on n'a pas envie de la remettre en question pour aller dans une société qui serait totalitaire et dans laquelle il y aurait un État qui gouverne tout et qui planifie tout. Le libéralisme, c'est la possibilité pour la libre entreprise d'exister. Je pense que ce sont des bonnes choses. En revanche, nous avons une espèce de permissivité au niveau des mœurs et finalement un abandon de l'individu. Sous prétexte de liberté, on abandonne les individus à eux-mêmes et ils n'ont plus de sens et ils n'ont plus de maître, de tradition, de vie spirituelle qui leur permettent de se construire. Et donc, il y a une grande solitude, il y a une grande errance, et on ne sait pas où on va.
Le sage a besoin de temps, d'espace, de recul. C'est une certaine ascèse,
C'est une ascèse.
Penser sa vie, la réfléchir, renoncer à certaines choses.
Bien sûr. L'ascèse veut dire l'exercice. Et l'exercice veut dire que je m'exerce comme l'athlète s'exerce. Tous les jours, je pratique des choses pour me fortifier. Et je me prépare à vivre. Montaigne a écrit les essais, et le mot essai, c'est le même que le mot exercice, ascèse. C'est une ascèse laïque. Les anciens pratiquaient l'ascèse sous la forme de la frugalité, du contentement et de l'acceptation. Et ils apprenaient à tout accepter, tout ce qui arrive, avec équanimité d'âme, humilité. Ça, c'est l'ascèse. Alors, le combat intérieur, c'est les désirs individuels, les révoltes égoïstes et tyranniques, les gens qui ramènent tout à eux-mêmes.
Mais comment, justement, rentrer dans cette forme de recul et pouvoir soi-même voir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, ce qui fait du bien aux autres, ce qui fait du mal aux autres?
Alors, il y a deux choses qui permettent de le faire, l'expérience du mal et l'expérience du bien. C'est-à-dire que quand on a souffert, parce qu'on a une vie chaotique, parce qu'on vit dans un monde chaotique, parce qu'on n'est pas bien, on a envie de changer. Et donc, la souffrance ici, nous incite à changer de vie. D'autre part, il y a des moments où on a mangé des choses qui nous font du bien, eu des pensées qui nous font du bien, avoir un rythme de vie qui nous fait du bien, eh bien on va dans ce rythme de vie. Ce qui est très dur, c'est la tentation de régresser en arrière. C'est pour ça que dans le Notre Père, qui est complètement là, le programme pour avoir une vie de sainteté, de sagesse, de bonheur, tout y est, dont ne nous laisse pas succomber à la tentation. Délivre-nous du malin, c'est-à-dire délivre-nous de ce qui fait qu'à un moment, comme dit saint Paul, je vois le bien mais je fais le mal, parce que je suis incapable d'avoir la force de garder le bien et de résister au mal. Le problème de l'homme, il voit le bien et il fait le mal, c'est-à-dire il est faible à l'intérieur de sa volonté. Et là, il nous faut demander à Dieu de nous donner une volonté ferme. Une des choses les plus difficiles au monde, c'est de se faire du bien. C'est de faire des choses qui sont bonnes pour soi. C'est pour ça que je disais souvent dans les livres que j'écris sur le bonheur, il est très difficile d'être heureux et très facile d'être malheureux. Alain disait qu'être triste, c'est facile, et être heureux demande un travail de résistance, chose confirmée par des amis psychanalystes qui m'ont dit « le bonheur est un travail, le bonheur est une vertu ». Et savoir garder le bien qui nous a été confié, c'est beaucoup plus difficile que ce que l'on pense.
Série Halte spirituelle consacrée à la sainteté avec le philosophe Bertrand Vergely. Bertrand Vergely, nous avons parlé de la figure du sage. Nous allons maintenant regarder de plus près ce qui caractérise le saint. Comment vous le définissez par rapport à ce que nous avons dit sur la sagesse?
Je caractériserai le saint par deux choses. Premièrement, celui qui est totalement transparent à la volonté de Dieu. Pour moi, la sainteté est caractérisée par la parole du Notre Père, du sermon sur la montagne, que ta volonté soit faite. Mais la sainteté, c'est aussi ce qui nous met en relation avec ce qu'on peut appeler le plan divin de l'existence, qui demande une extraordinaire pureté de cœur, d'âme et de corps pour pouvoir y accéder. Donc le saint, c'est celui qui va en contact avec les choses saintes. Et je crois qu'on a là une bonne définition de la sainteté, c'est-à-dire que la sainteté est un état intérieur, mais c'est aussi ce que j'appellerais un état ontologique qui touche l'essence de la réalité.
C'est-à-dire que ontologique, c'est l'être.
Voilà.
Nous sommes destinés à cela.
Nous sommes appelés à une vie inouïe. Dieu nous a fait le cadeau de la vie, nous a envoyés dans la vie pour que nous devenions, pour que nous allions avec lui dans la communion et dans la vie éternelle. Et le monde de la sainteté est un monde totalement dépollué, où toute chose resplendit de beauté, de splendeur.
Et pourtant, le saint, il continue à vivre dans le même monde que tous les autres.
Alors, les saints dans notre monde sont des gens très humbles, très simples. Mais quand on rentre dans le monde divin, là, on rentre dans un monde où je dirais que toute chose est plus que sacrée. Lévinas a écrit un ouvrage qui s'appelle « Du sacré au saint », pour bien montrer la différence entre les deux. Alors nous pourrions dire, le sacré, c'est ce que l'on ne touche pas, ce que l'on ne souille pas, ce qui est exceptionnel, ce qui est précieux. Et donc, dans le sacré, il y a une coupure entre le profane et le sacré. Dans la dimension du saint, nous rentrons dans autre chose, qui est la dimension de l'autre, et pas simplement de l'être, du tout autre, et de quelque chose dont on peut dire qu'il est infiniment humain et infiniment moral. Donc je dirais que l'expérience du sacré, c'est le moment où je suis dans le respect par rapport à quelque chose d'autre, de précieux, que je vénère. Dans le saint, c'est autre chose. On rentre dans une dimension qui n'est plus tant celle du sacré que de l'infini.
Mais le Christ est venu abolir la frontière entre sacré et profane. Le temple s'ouvre.
Le Christ est venu, comme vous le dites très justement, tout transfiguré. Et là où le Christ transfigure les choses, c'est qu'il va dans le profane pour le subvertir. Et même le profane devient non pas sacré mais saint. Il sanctifie les choses. C'est-à-dire, il amène les choses à leur point de communion. Il amène les êtres à leur point de communion. Qui est le saint ? Le saint, c'est celui qui laisse passer Dieu et qui est dans un état de communion avec Dieu. Donc, si vous voulez, dans la pédagogie des choses, premièrement, nous sommes dans un monde profane qui est devant le temple. Ensuite, on rentre dans le temple et là, on rentre dans le respect. On fait l'expérience du sacré. On se prosterne devant plus grand et plus haut que nous et on apprend à ne pas tout mélanger, à ne pas vivre dans le chaos. Donc on a le sens du sacré, on a le sens des limites, on a le sens du respect. Mais dans la sainteté, on est au-delà, on est dans la communion, on est dans la vie. Car le but du sacré, c'est le saint. Et le but et la vie du saint, c'est ce qui se passe quand l'homme est uni avec Dieu et qu'on voit Dieu à travers l'homme, l'homme étant devenu une icône. Donc, si vous voulez, la sainteté est un état de communion entre Dieu et l'homme. Alors, le saint, c'est celui qui s'est tellement transformé intérieurement qu'il permet à Dieu de venir dans son cœur.
D'habiter en lui.
Et d'habiter en lui. Ce n'est pas moi qui vis en moi, c'est lui qui vit en moi. Angels kia.
Bertrand Vergely, vous-même êtes orthodoxe, vous l'avez dit. Vous êtes allé au Mont Athos l'été dernier. On fait sur cette île une expérience de sainteté ?
Oui. Ça, je vous assure que j'étais dans un monastère, j'ai vu un saint homme. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire parce que je me suis rendu compte, un mois après avoir vu cet homme, que cet homme m'avait foudroyé par son regard. Qui était absolument incroyable. Quand je l'ai vu, c'était un homme très simple, extrêmement beau, mais le regard qu'il a jeté sur moi est allé au-delà de ma conscience, dans le plus profond de moi-même. Et j'ai vu que cet homme était totalement pénétré par Dieu, qui vivait à travers lui. Donc ça lui donnait cette beauté, mais plus que la beauté, ça donne un regard et une puissance absolument foudroyante.
Est-ce qu'on peut associer la sainteté et la perfection ? Parce qu'on sait que tous les saints ont leur côté sombre également, ont leurs difficultés. Perfection, sainteté, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet ?
Ben, écoutez, la perfection est un mot humain qui ne rend pas tout à fait compte de ce que veut dire la sainteté. D'abord, moi j'ai toujours pensé que la perfection existe, et qu'elle modèle nos actions. Si vous voulez apprendre la musique ou la cuisine, vous allez avec le meilleur des musiciens et le meilleur des cuisiniers qui va essayer de ne pas bâcler les choses et de les faire parfaitement. Donc je dirais, la perfection, ça n'est pas bâclé. Et c'est bien fait. Et c'est parfois très bien fait. Et nous disons, c'est parfait. La sainteté, c'est autre chose. Dans la mesure où la sainteté touche notre cœur. Et quand vous avez affaire à un saint, bien évidemment, vous avez affaire à quelqu'un qui est moralement parfait, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que le christianisme n'est pas une morale, car le christianisme ne vise pas à fabriquer des hommes parfaits. Il vise à fabriquer, si j'ose dire, des hommes saints. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans un état de communion avec Dieu qui touche votre cœur et qui comprend tout. Je crois que l'expérience de la sainteté nous met en contact avec des êtres qui prennent tout dans leur amour, qui prennent tout dans leurs bras, et dans lesquels il y a une infinie bonté qui rentre dans le monde.
Mais comment, justement, arriver à cet état-là de, d'aimer le monde, se laisser traverser par un esprit d'amour, cette communion avec les autres ?
Personne n'en sait rien. Nous savons une chose, c'est que dans l'Église, il y a la tradition de la vie liturgique, de la prière, de l'humilité, du service des autres. Et un jour, chez telle ou telle personne, une mutation s'opère. Et là, on est dans l'esprit de la communion qui embrasse tout. On est dans l'amour du Christ qui prend tout sur lui et tout avec lui. Et là, c'est pas vous qui décidez. Don divin, don venu d'en haut, qui passe à travers vous et qui fait que votre cœur, à un moment, s'est ouvert à cela. Je crois qu'il ne faut pas chercher la sainteté. Il faut vivre dans le cadre de l'Église, avec son enseignement merveilleux et très juste, fait de prière, fait d'humilité, fait de sens des autres. Et pour le reste, laissez faire. C'est l'Esprit Saint qui agit en vous. Et si vous devez être un saint, vous serez un saint. Et si le temps n'est pas encore venu, eh bien, le temps n'est pas encore venu. Chacun progresse en fonction de ce qu'il est. Car il faut faire attention aussi. La sainteté ne peut pas être donnée à tout le monde, car quand vous avez la sainteté, vous avez les démons qui viennent.
Le combat.
Et le combat spirituel, et avec les tentations, le tentateur, l'adversaire, il faut être très armé pour pouvoir aborder les grands combats spirituels avec le Christ.
Juste un petit point sur ce qu'on avait dit sur le sage qui accepte le monde tel qu'il est. Le saint, lui, par rapport au monde ?
Le saint, il transfigure le monde. Il met l'état, le monde en état de communion avec Dieu. Vous savez, un archimandrite, le père Spyridon, était dans un monastère bouddhiste. Et le lama de ce monastère a dit à père Spyridon, il a dit, écoutez, voilà, si tout le monde était bouddhiste, les hommes pourraient dormir la nuit et ils n'auraient pas de cauchemars. Mais si tout le monde était chrétien, il n'y aurait plus besoin de dormir parce que le ciel serait sur la terre. Donc je crois qu'on a une belle distinction entre la sagesse et d'autre part la sainteté. La sagesse vous permet de dormir, d'éviter les cauchemars. La sainteté, c'est ailleurs. C'est-à-dire, le saint, c'est inimaginable. Il nous amène Dieu et la vie divine. Et là, on est projeté dans une autre dimension.
Bertrand Vergely, nous poursuivons notre dialogue sur le thème de la sainteté. J'aimerais qu'on parle de saint Paul parce qu'il parle justement de la sagesse et de la folie. Il nous dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et c'est au sujet de cette folie de Dieu que j'aimerais vous entendre. Elle se situe où, cette folie de Dieu, du Dieu des chrétiens ?
Alors, souvenons-nous de la parole de saint Paul. La sagesse de Dieu est folle aux yeux des hommes. Et la sagesse des hommes est folle aux yeux de Dieu.
Comme une incompatibilité, là.
Ah, il y a une incompatibilité. Puis, c'est intéressant, il y a une figure de rhétorique, une sorte de jeu très subtil au niveau du langage. Et effectivement, il faut comprendre la différence qu'il y a entre la sagesse humaine et d'autre part la sagesse divine. La sagesse humaine, à l'époque de saint Paul, c'est la mesure. La mesure des choses par la raison. Et la sagesse divine, on pourrait dire, c'est la démesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour mesurer les choses, il ne faut pas simplement une mesure humaine. Il faut une mesure plus qu'humaine. Vous savez, il y a deux, trois penseurs qui ont compris ça dans la tradition occidentale, Maître Eckhart, Nicolas de Cuse, Pascal. ils ont un point commun. Si face à Dieu, on n'est pas renversé, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'était que Dieu. Dieu n'est pas simplement harmonieux. Il est époustouflant. Il va au-delà de tout. Le sage, il est en harmonie. C'est bien. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir aller vers le divin. En gros, c'est très bien d'être en accord avec Dieu et d'entendre par Dieu un principe harmonieux, sage et équilibré. Mais si on croit connaître Dieu, on se trompe. Dieu n'est pas simplement harmonieux, sage, divin. Il est plus que ça. C'est la tradition de la théologie négative qu'on trouve chez Denis l'Aréopagite et qui est reprise par Maître Eckhart, Nicolas de Cuse, Pascal.
Ça veut dire que Dieu ne va pas être enfermé dans nos concepts,
voilà.
Dans nos mots.
Voilà.
Il nous dépasse complètement.
Et il faut accepter quelque chose de vertigineux. Et si nous voulons demeurer humains avec nos catégories sages, nous allons dans la folie. On peut donner un exemple. Saint Augustin disait « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » Et donc, il faut oser être fou d'amour.
C'est ce que fait le saint.
C'est ce que fait le saint. Mais c'est une folie très sage. Mais il faut bien comprendre qu'à un moment, on accepte d'être totalement dépassé. On accepte d'être devant la démesure, d'être totalement transcendé. On accepte de ne plus savoir. Dans un premier temps, pour l'homme, il est important de passer de l'ignorance au savoir. Et donc, il faut savoir. Et donc, nous avons des hommes de science, des techniciens qui savent. Nous avons même des théologiens qui savent. Nous avons des philosophes qui savent. Nous avons des politiciens qui savent. Et dans un deuxième temps, il faut accepter de ne plus rien savoir, d'être complètement dépassé et de se laisser emporter ailleurs, dans autre chose. Donc, ce que veut dire la folie divine, c'est que Dieu n'a pas de limite et on n'imagine pas par où il peut passer. Et il faut accepter d'être totalement dépassé, transcendé par le côté inouï et vertigineux.
Bertrand Vergely, quand saint Paul parle de folie de Dieu, il parle aussi de la croix.
Oui.
Et il faut parler de la croix parce que là, il y a, avec cette croix, toutes nos catégories, toutes nos images de Dieu explosent.
Il y a quelque chose que les gens n'ont pas très bien compris, c'est que Dieu est humble. On croit toujours que Dieu est puissant et on ne voit pas que l'extraordinaire puissance de Dieu est liée à son extraordinaire humilité. Et l'idée que Dieu est humble, est ahurissante, ça bouleverse tout. Pourquoi beaucoup de gens ne croient pas en Dieu ? Parce qu'ils croient que Dieu est un pouvoir. Et ils ne veulent pas un pouvoir au-dessus d'eux. Ils imaginent un Père tout-puissant qui envoie des éclairs comme Zeus. Or, que montre le Christ ? C'est tout à fait autre chose. Dieu est d'une humilité totale. Qui est-ce qui ne veut pas entendre parler du Christ ? C'est Satan. Quand à un moment Dieu crée et Dieu se montre, Satan est furieux contre Dieu en disant « Attends, mais tu ne vas pas être humble. Tu ne vas pas te manifester sous la forme de ton fils, le Christ. Tu ne vas quand même pas accepter d'aller sur la croix. Tu ne vas pas accepter à un moment d'être traité comme un va-nu-pied, d'être traité comme un esclave, d'être traité dans l'infamie. » Eh bien, même ça, Dieu le vit. Et ça, c'est stupéfiant. Pour le monde grec et romain, pourquoi ? Parce que chez les Romains et les Grecs, Dieu est beau, Dieu est fort, Dieu est puissant, mais Dieu ne va pas sur la croix. C'est-à-dire Dieu est une image sublime, idéale, mais jamais quelque chose qui va dans les profondeurs de l'enfer. D'où la folie de Dieu.
Alors le saint a compris cela, il y croit. Non seulement il y croit, mais il se dit que c'est ce chemin-là que lui doit emprunter.
le saint, il vit ce que Dieu lui a envoyé et il va là où Dieu l'envoie et le guide. Donc, il accepte ce chemin-là, qui est un chemin de dépouillement. Le saint est quelqu'un qui a crucifié son intelligence.
Alors, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que le saint a transfiguré le nous pour aller des pensées humaines à la pensée de Dieu.
Le nous, c'est
l'intelligence. Dans la tradition orthodoxe, nous disons que tout le travail de la sainteté consiste à passer des pensées, au pluriel, au nous. Alors c'est très curieux, je me permettrai quand même de faire un parallèle avec le bouddhisme, parce que je trouve qu'il existe. Les bouddhistes nous disent que nous sommes dans le mental, et les projections mentales sont liées à l'ego prédateur.
Donc le moi,
qui veut
posséder, dominer, maîtriser,
et qui veut le savoir, les sensations et le pouvoir. Et le saint homme, c'est celui qui a libéré totalement son esprit des pensées pour se laisser traverser par la lumière divine, qui est l'opposé de l'ego prédateur, c'est-à-dire qui permet d'amener toutes choses dans leur lumière et de libérer leur noyau. Donc, il faut bien comprendre que quand on est dans l'expérience de la lumière, on est dans l'expérience de libération totale de l'être humain, ce qu'il y a de plus haut et de plus élevé. Et le saint homme, il vient apporter la lumière. Vous voyez ça? Et je crois qu'il faut le dire, parce que nous voyons souvent, dans la sainteté, quelqu'un qui est très dévoué aux autres. C'est vrai, c'est magnifique, mais je crois qu'il faut rapprocher cet état de sainteté, c'est-à-dire d'être dévoué aux autres, il faut le rapprocher d'un état de connaissance. Qu'est-ce qui est important? C'est que le Christ est venu nous apporter la connaissance, la vraie lumière, qui permet à toute chose d'être. Si notre connaissance est polluée, tout est pollué. Et ce que nous pouvons faire de plus beau et de plus noble dans le monde, c'est de changer nos pensées. Il y avait un sage bouddhiste qui disait qu'il y a trois choses qu'il faut faire dans la vie. La première, c'est faire des choses utiles. La deuxième, c'est de ne pas faire de mal. Et la troisième, c'est de changer ses pensées. Et l'idée, les deux premières choses sont faciles à faire, mais la troisième est très difficile à faire. Vous savez, Platon nous dit que l'essence du monde se trouve dans le soleil qui permet à la chose d'être vue et au regard de voir. Et il faut atteindre le soleil qui permet à toute chose, finalement, d'accéder à ce qu'elle est. Le saint nous permet d'accéder à ce que nous sommes. C'est-à-dire, quand vous rencontrez un saint homme, vous êtes remis en place. Vous êtes là où vous devez être, dans la vraie lumière.
Dans la vérité.
Dans la vérité.
De qui nous sommes.
Voilà. Lorsque Motovilov est allé voir Saint Séraphin de Sarov.
Donc qui est-il, Motovilov?
Saint Séraphin de Sarov, grand saint du XIXe siècle. Motovilov, un homme, un chrétien de Russie, qui va voir Saint Séraphin de Sarov en plein hiver. Et l'autre lui dit, écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. Je vais vous montrer ce que c'est que la lumière transfigurée. Et à ce moment-là, Motovilov voit une lumière qui est plus éclatante que le soleil et plus blanche que la neige. Et le monde est révélé sous sa véritable dimension. Et là, nous sommes à ce moment-là, il dit, voilà, maintenant vous pouvez reposez-vous, vous avez souffert dans la vie, vous êtes dans la lumière incréée. Donc ça, nous disons, c'est notre destination. C'est-à-dire, quand nous allons aller dans la mort, c'est qu'à un moment, il nous est donné d'être en relation avec la lumière incréée et de voir les choses telles qu'elles sont. Le père Sophronie, l'archimandrite Sophronie, avait écrit un livre qui s'appelle « Voir Dieu tel qu'il est ». Et donc là, on est dans les plus hauts sommets de connaissance et là, le monde est libéré. On voit les choses avec les vrais yeux. Et donc, on peut vivre. Et je crois que, si vous voulez, les grands saints à travers le monde, et là je dirais dans d'autres traditions, c'est-à-dire les grandes traditions de méditation et de sainteté, nous amènent vers ces sommets lumineux. Et là, nous avons affaire aux choses les plus importantes pour l'humanité. C'est-à-dire, quand il y a un saint, la lumière vient sur la terre, donc on peut voir le monde, on peut enfin vivre. C'est la clé qui ouvre tout.
Bertrand Vergely, nous continuons à parler avec vous de la sainteté avec, en filigrane, la question de la folie et de la sagesse. On en a déjà parlé. Vous évoquiez le bouddhisme. Et j'aimerais qu'on revienne avec vous là-dessus, parce que beaucoup de personnes, justement, aspirent à être baignées de lumière, à se libérer du moi, de l'ego, et vont vers le bouddhisme. Ils pourraient se tourner vers le christianisme, puisque le Christ est venu pour nous aider à comprendre ce qui ne va pas dans nos vies, à nous remettre aussi dans une communion avec l'amour, avec les autres. Pourquoi cette attirance, selon vous, vers le bouddhisme ?
Alors, je crois que le bouddhisme leur réenseigne une tradition d'intériorité. Souvent, des gens ont souffert d'une pastorale un peu moralisante qu'il y a dans l'Église et pas assez intériorisée. Et donc, il y a un recul, une distance, en disant, voilà, dans le bouddhisme, on a tout d'un coup une expérience intérieure. On ne parle pas en étant silence. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes redécouvrent le christianisme grâce au bouddhisme. Car à un moment, ils sont dans le bouddhisme, ils disent « mais c'est quand même pas nos traditions, c'est pas tout à fait notre culture », puis ça leur permet de comprendre. Alors moi je pense, j'ai été en Birmanie, j'ai vu ce que c'était qu'un pays bouddhiste, c'est extraordinaire. La dévotion qu'il y a en Birmanie de la part du peuple birman à l'égard du Bouddha est absolument extraordinaire, et je me suis dit « ça prépare le Christ ». C'est-à-dire que le bouddhisme permet d'être dans un état apophatique où on ne juge plus des choses.
Apophatique, c'est-à-dire
négatif, où théologie négative.
On n'a plus d'image de Dieu.
On ne dit pas ce que Dieu est, on dit ce qu'il n'est pas.
Vous voulez dire que cela, ça va nettoyer toutes les fausses images qu'ils ont eues de Dieu, voire les blessures.
Exactement.
Aussi.
Vous arrêtez de penser à Dieu d'après vos schémas. Et ça, c'est l'essence du bouddhisme. Donc je crois que les bouddhistes disent, on n'est même pas une religion, on est une philosophie, c'est-à-dire on prépare les gens. Le Dalai Lama dit, écoutez, nous, si vous voulez être religieux, ça vous regarde. Nous faisons de la méditation, nous préparons les gens à la méditation, et vous pouvez très bien faire de la méditation et aller dans votre religion. Ce que je crois tout à fait vrai. Alors ce que je crois, si vous voulez, c'est que comprendre Dieu, c'est comprendre l'essence spirituelle du monde. Spirituel, vous savez, quand je parle de spiritualité, je dis il y a la réalité et puis il y a la réalité de la réalité. Il y a quelque chose qui fait que le réel est réel. Et ce qui fait que le réel est réel nous amène dans la pensée, avec un P majuscule, dans la lumière, dans la réflexion fondamentale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus réel que de mener la vie monastique spirituelle. En Birmanie, tout le monde doit aller au monastère. Et deux fois dans leur vie, les hommes et les femmes doivent faire des retraites dans les monastères et doivent se purifier, parce qu'ils ont très bien compris l'essence spirituelle du monde. Oui. Nous avons une vision intellectuelle, mais notre monde n'est plus gouverné officiellement par la spiritualité, c'est-à-dire l'expérience de la présence dans le cadre d'une tradition. Cette présence comportant la présence divine et la présence sainte.
Bertrand Vergely, j'aimerais évoquer le changement que les saints peuvent opérer dans le monde, parce que vous avez cité des saints hommes du mont Athos, des grandes figures comme Père Sophronie, un grand spirituel orthodoxe, mais nous tous, inconnus, là où nous vivons, appelés à la sainteté, comment nous pouvons vivre dans ce monde et puis peut-être le faire bouger, en tout cas lui donner une âme, lui donner quelque chose ?
Alors, à un moment ou à un autre, vivre, c'est répondre à l'appel du cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous demande de changer et de vivre spirituellement en nous dépouillant d'un certain nombre de désirs et de volontés prédatrices qui nous font du mal, et en laissant l'être profond se manifester. Quand les gens changent le monde, ça se fait à travers eux. Ça ne se fait pas parce qu'ils le veulent, ça se fait à travers eux.
Donc la sainteté, ce n'est pas une question de volonté.
Surtout pas. C'est autre chose, c'est cadeau de Dieu, mais en accord avec vous. Qu'est-ce que vous devez faire ? ce qui est bon pour vous et ce qui vient de l'intérieur du cœur. Et à force de vivre dans ce qui est bon pour vous et ce qui vient de l'intérieur du cœur, petit à petit, vous vous transformez et vous faites du bien autour de vous. Vous savez, les personnes spirituelles, on se sent bien à côté d'elles. Et rien que leur contact nous permet, nous donne envie de changer. Leur simple présence change les choses. Donc, ils n'ont pas de volonté par rapport au monde, en disant « je suis un saint et je vais sanctifier le monde ». Là, ce serait l'orgueil, la folie. Je crois que le saint, c'est quelqu'un qui vit en Dieu et Dieu agit à travers lui.
Donc, pratiquement à son insu.
À son insu.
Parce que s'il s'en rend compte, il peut tomber dans l'orgueil.
Bien sûr, c'est comme si un sage disait « je suis sage ». Et je crois que cet état de sainteté a été bien compris par Socrate. Quand Socrate dit « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire deux choses. Il voulait d'abord se moquer des prétentieux. Et donc, c'est une phrase ironique. Mais d'autre part, c'est une phrase qui nous renvoie à l'essence de la sagesse qui est divine. À un moment, il se peut qu'on soit sage, cadeau des dieux. À un moment, il se peut qu'on soit un saint, cadeau de Dieu. Quel est le saint ? Le saint, c'est quelqu'un qui guérit le monde. Le monde est coupé en deux parce que les hommes ne vivent pas dans la réalité de la réalité. Ils sont scotchés au niveau de la réalité extérieure sans rentrer dans la réalité spirituelle et la réalité divine. Et nous dirons que le saint, c'est quelqu'un qui, par sa présence, reconnecte la réalité avec la réalité de la réalité, avec ce qui nous fait être.
Avec l'être.
Avec l'être. L'être profond, l'être total. Quand les penseurs médiévaux parlent de Dieu, ils disent un océan de vie. Toute expérience de vision divine, c'est un océan d'amour, un océan de vie, un océan de lumière. Et le saint a cette ouverture qui se fait à l'intérieur de lui. Il ne guérit pas tout le temps. Mais il y a des moments où les saints peuvent guérir. Donc ils peuvent guérir votre âme, votre être, tout simplement en vous reconnectant avec la vérité de vous-même.
Mais comment se fait-il, Bertrand Vergely, qu'aujourd'hui on se soit coupé de la réalité, cet être qui est sous-jacent et qui transpire en chaque visage, en chaque réalité du monde ? Comment se fait-il que nous soyons autant coupés de l'invisible ?
Nous vivons une véritable tragédie historique. C'est le résultat, si vous voulez, de toute une histoire qui nous a précédés. Il y a des gens actuellement en France, dans le monde, qui vivent cette réalité. Mais, que se passe-t-il ? Je crois qu'il y a eu deux choses. Il y a eu des erreurs de l'Église, parfois dans sa communication, sa pédagogie, qui à un moment ont trop moralisatrice et pas assez intériorisée, coupant les gens de la réalité divine. Et puis, il y a autre chose aussi, il faut le dire, et ça, l'Église n'y est pour rien, c'est l'orgueil de l'homme. La volonté, à un moment, de tout faire tout seul par soi-même.
Se passer de Dieu.
Absolument. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec les nouvelles technologies, avec les progrès de la démocratie, il y a des gens qui disent, nous n'avons plus besoin de Dieu. Dieu, c'est fini, ça a joué son rôle, ou c'est totalement inutile, nous n'en avons pas besoin. Ce qui est une erreur gravissime. Rien ne peut se faire sans Dieu et sans la lumière divine et sans cette relation avec plus haut, plus profond, plus lumineux que nous. Alors aujourd'hui, nous sommes coupés de ce plan-là et nous en souffrons énormément. Je pense que tous les problèmes moraux, mais aussi physiques, que rencontre notre civilisation, vient de ce que les êtres sont coupés de cette dimension divine.
Ce qui est paradoxal, c'est que c'est parfois au nom de la sagesse et du bien qu'on en vient, par exemple, à choisir la mort pour quelqu'un, l'euthanasie.
Nous sommes dans, par exemple, les paradoxes. Les gens veulent dire « ma mort m'appartient » et « je vais me suicider, c'est une marque de ma liberté » ou bien « ça va nous libérer de la souffrance ». Donc nous sommes dans des faux raisonnements et le fait de tuer quelqu'un ne résout pas le problème de la souffrance. Ce qui résout le problème de la souffrance, c'est où le progrès de la médecine ou le progrès de la spiritualité. Donc nous sommes dans la vieille histoire du monde, c'est l'histoire de l'orgueil humain, qui à un moment dit « je n'ai pas besoin de Dieu, je peux m'en passer ». qui fait une expérience qui est celle du fils prodigue, c'est-à-dire les gens partent avec leur héritage, tout d'un coup ils se mettent à vivre par eux-mêmes, et après ils se rendent compte qu'ils tombent dans une misère et une pauvreté extrême, et ils se souviennent à un moment du royaume qui était le leur.
Mais est-ce que vous pensez que ce souvenir va pouvoir revenir, arriver ?
Il faut avoir la patience. L'homme ne peut pas vivre longtemps et indéfiniment sans Dieu, sans qu'il y ait une révolte de l'esprit à l'intérieur de lui-même. Donc nous vivons ce que Heidegger appelle non seulement l'oubli, mais l'oubli de l'oubli. C'est-à-dire on n'a même plus conscience d'oublier. Donc c'est vrai que nous sommes, pour moi, actuellement dans la nuit. Nous traversons une nuit, alors en apparence tout va bien, nous sommes dans des progrès, mais quand on commence à gratter, on s'aperçoit que les choses quand même sont inquiétantes. Il y a un mode de traitement de la nature qui est très violent et nous sommes au bord d'une catastrophe écologique. Et puis d'autre part, les sociétés sont des sociétés dangereuses. Il y a une montée de la violence qui fait que la société démocratique n'est pas une société pacifiée. La société française est une société violente. Pourquoi elle est violente ? Parce que quand les êtres ne vivent pas leur noyau d'être spirituel, ils deviennent de plus en plus égoïstes, de plus en plus tyranniques, et leur moi prédateur prend de plus en plus de force, et on vit dans un monde où c'est ce que disait Hobbes, la lutte de tous les égaux, les uns contre les autres.
Dernier volet d'une série sur le saint, celui qui est souvent considéré comme fou aux yeux du monde. Nous sommes toujours avec vous, Bertrand Vergely, et nous parlions du monde tel qu'il va. Précédemment, nous disions que l'homme avait oublié Dieu et que les conséquences sont terribles. On voit des prophètes dans l'Ancien Testament qui régulièrement disent « vous avez oublié Dieu » ou alors « voilà, il faut vous réveiller ». Ça, c'est le rôle du saint aussi de crier ?
Non, c'est autre chose.
C'est pas le prophète.
Le prophète est une chose, le saint est autre chose.
Quelle différence alors vous faites entre les deux ?
Le prophète annonce le saint. Et le prophète a un rôle social et politique qui est tout à fait différent de celui du saint. Le prophète, c'est celui qui brise les idoles, qui combat la violence et les scandales des hommes. Et il faut des prophètes. Et malheureusement, les pauvres prophètes, en général, ils sont souvent mis à mort.
Ça finit mal, généralement.
Ça finit très mal. Le saint, c'est autre chose. C'est le ciel sur la terre. C'est la bonté infinie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est arrivé à un tel degré de vie spirituelle qu'à un moment, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime à travers lui, qui embrasse tout. Quelle est l'expérience de la sainteté ? Les gens sont en larmes. J'ai un ami, que j'aime beaucoup, Jean-François, quand il a vu le père Païssos au Mont Athos, il m'a dit « j'ai pleuré ». J'ai pleuré pendant 3 quarts d'heure.
Ce père, c'est qui, le père Païssos ?
Un père, un grand saint du Mont Athos qui est décédé. Et il y a eu 2 personnes qui m'ont raconté ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, un torrent de larmes. Tellement ils avaient vu la douceur, la bonté, on est saisi, on est bouleversé. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça, on est sur une autre planète. Vous savez, dans notre pauvre monde, il y a tellement de violence, une telle brutalité de rapport. Et tout d'un coup, vous rencontrez une infinie douceur. Vous dites, ça y est, je sors de la barbarie. Voilà, et alors bien sûr, c'est parce qu'il y a des prophètes, qu'il peut y avoir des saints.
Mais notre monde semble manquer de prophètes aujourd'hui. Enfin, on se souvient de l'abbé Pierre qui, justement, avec son fameux appel, a quand même réveillé la France à un moment donné.
C'est-à-dire que nous avons affaire à des faux prophètes qui sont des prophètes sans Dieu ou des prophètes contre Dieu. C'est le problème. Et alors, nous avons des apprentis prophètes qui veulent détruire nos idoles, mais qui produisent de nouvelles idoles.
Par exemple,
je pense que l'athéisme aujourd'hui est un faux prophétisme. L'athéisme voudrait qu'on se purifie et qu'on pratique une forme de vide. Et en disant que la chose à vider, numéro 1, c'est Dieu. Pourquoi ? Pour remettre à la place le corps, la sexualité, la liberté individuelle infinie. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une contre-initiation. C'est-à-dire, au lieu d'être un prophétisme au service de Dieu, de la bonté, de l'amour infini, on fait exactement l'inverse. Donc, nous vivons une errance. Alors, d'un certain point de vue, c'est pour moi très pénible à vivre. Mais d'un autre côté, il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura un renversement. Tout ça sera balayé parce que c'est invivable. Vous savez, à force de vivre dans un monde de plus en plus dur, de plus en plus rugueux, de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste, on vit dans un monde de plus en plus invivable et dans lequel, tout d'un coup, il y a le désir d'autre chose. Et là, le retournement se fait. Alors, avant de devenir un saint, toute chose. La sainteté, vous savez, nous est donnée par Dieu. Et c'est souvent au terme d'une vie d'ascèse, et ça vient à travers nous.
Bertrand Vergely, nous n'avons pas parlé encore de la communion des saints.
Oui.
C'est important dans l'Église catholique, c'est important aussi dans l'Église orthodoxe. Par exemple, quand vous rentrez dans l'Église orthodoxe, vous avez tous ces murs peints qui oui. représentent souvent les saints, la Mère de Dieu, le Christ, bien sûr. Et puis alors, on dit que c'est le ciel entier qui prie avec les gens qui sont présents dans l'Église. Donc les vivants, ce n'est pas simplement les vivants sur cette terre, c'est les vivants qui sont déjà auprès de Dieu.
Voilà. Je crois qu'il y a, vous savez, dans la vision chrétienne, il y a Dieu, les archanges, les anges, toutes les hiérarchies célestes. Il y a les hommes, les vivants et les morts. Mais vous savez, on pourrait aussi mettre toute la création entière, tous les arbres, tous les animaux, toutes les pierres, participent de la vie divine. Et bien évidemment, les saints qui continuent de prier pour nous et de vivre pour nous, et de former cette société sainte et non pas une société angélique.
C'est quoi la différence ?
Bien, c'est-à-dire que les anges, ce sont des êtres qui ne sont pas devenus des hommes, si vous voulez. Hein. Ce sont donc des manifestations, des intermédiaires, des envoyés du ciel, purement célestes et pas humains. Tandis que les saints sont des transfigurateurs, les hommes qui ont transfiguré le monde. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est les différentes sociétés dans lesquelles on est. Et je crois qu'il y a des mondes. Dans le monde de la sainteté, il y a un monde. Et les saints communiquent avec les hommes, mais les saints communiquent entre eux.
Et alors, justement, vous dites ça, mais très concrètement, c'est quelque chose que vous avez expérimenté, vous, par exemple ?
Écoutez, je peux vous dire, en tout cas, que le fait de se reporter à un saint permet de faire des miracles. Moi, quand j'ai passé l'agrégation de philosophie, j'avais dans mon portefeuille la photo du Staret de Silouan. Et je considère que si j'ai eu l'agrégation de philosophie, c'est grâce à lui. Attendez, il y avait 800 personnes qui présentaient l'agrégation, il n'y avait que 20 postes. Mais c'était ahurissant. J'ai cru tomber à la renverse quand j'ai appris que j'avais eu l'agrégation. Et je peux vous dire, mais le regard de ce saint tenu, et qu'à un moment, il faut s'adresser aux saints. Et les saints vous aident. Dieu vous aide. Je crois qu'on peut se représenter Dieu ainsi. Dieu souffre que l'homme ne lui demande pas assez de choses en disant « j'ai des trésors à lui donner, mais je ne peux les lui donner que s'il les désire. »
Donc, oser demander.
Oser demander à Dieu, et aussi des choses très matérielles. Moi, je crois à la parole du Christ qui dit « vous ne vous imaginez pas, vous pouvez faire des miracles et vous pouvez faire encore plus que moi. »
Une dernière chose, quel est le saint, vous, qui vous accompagne ou la sainte qui vous accompagne ?
J'aime beaucoup le saint Séraphin de Sarov et qui a dit une phrase qui guide ma vie. « Qu'un homme se lève et des centaines se lèveront autour de lui. » J'aime cette idée que quand un homme rejoint sa verticalité, des centaines se lèvent autour de lui. C'est peut-être ça la sainteté, cette espèce de contagion positive, cette épidémie venue d'en haut qui fait que tout le monde se redresse et tout le monde retrouve sa véritable humanité.
Un grand merci à vous.
Merci.
Bertrand Vergely d'être venu nous parler de la sainteté. Ceux qui veulent vous lire, je cite votre dernier ouvrage, « Deviens qui tu es » et il est paru chez Albin Michel. Merci.
Merci beaucoup.